L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance, présentée par Bérénice Deville et Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, je vous rappelle que c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Et cette semaine, eh bien, nous allons nous attaquer à un sujet brûlant, mais pour faire une bonne émission, il faut bien sûr des excellents collaborateurs et des présentatrices non moins excellentes. Je suis en compagnie de Bérénice Deville. Bonjour Bérénice.
Bonjour Fabrice.
Ça va bien ?
Ça va et vous ?
Oui, on va parler logiciel bien sûr dédié aux conseillers en gestion de patrimoine. On est ravis d'accueillir sur ce plateau deux grands ou deux petits qui s'allient, on va voir, deux costauds en tout cas. On est ravis d'accueillir Pierre-Laurent Fleury. Bonjour Pierre-Laurent.
Bonjour.
Le président de Ménimore et Gilles Artaud. Bonjour Gilles.
Bonjour Fabrice.
Le président de PLP Soft. Voilà, avec vous, on va discuter de cette fusion que vous avez opérée entre vos deux sociétés. Pourquoi ? Quelle est la complémentarité ? Quels sont vos clients respectifs ? Pourquoi cette offre va-t-elle être complémentaire ? Dans un contexte aussi où on voit une fusion d'énormément de cabinets de conseillers en gestion de patrimoine et aussi eh bien, d'éditeurs. On a l'impression qu'on est dans une grande vague de concentration. On va commenter tout ça avec vous. L'Hebdo Patrimoine spécial éditeur de logiciels CGP, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine. L'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Voilà, et puis on n'oublie pas, je le précise, l'info, hein, évidemment, l'info et l'actu sur les marchés. On aura tout à l'heure un petit coup d'œil de la part de Marc Toiti, économiste qu'on a interviewé cette semaine, hein, pour ce qui se passe et ce qu'il faut éventuellement faire sur les marchés. Et puis on va parler aussi fintech avec Philippe de Gouville qui a créé Ismo. On vous fera réagir à cette nouvelle fintech qui arrive. Messieurs, on démarre avec peut-être la présentation de vos deux sociétés, pour ceux qui ne le connaisseraient pas encore. On démarre avec vous, Pierre-Laurent Fleury. Ménimore, qu'est-ce que c'est ?
Alors Ménimore, c'est une entreprise qu'on appelle d'agrégation. On appelle ça un agrégateur. En fait, c'est beaucoup plus large que ça. Ça fait du CRM, ça fait du réglementaire, ça fait de l'agrégation pour une part. Donc ça, c'est 50% de notre chiffre d'affaires. Et 50% de notre chiffre d'affaires, nous faisons des extranets et des outils d'actes en ligne pour les compagnies d'assurance. Donc nous, on a deux pieds quasiment identiques et qui font l'activité de Ménimore.
Très bien.
Tout ça étant dans la gestion de patrimoine.
Dans la gestion de patrimoine, on reste évidemment. Ça fait combien de temps à démarrer
l'aventure ? 2006.
2006, très bien. Oui, on était au balbutiement, 2006. Moi, je me rappelle, on se réfère à une date clé, hein, qui est l'iPhone, c'est 2007. Voilà, donc il y a quand même eu un monde avant, un monde après.
Après l'iPhone. Voilà.
C'est vrai, parce que tout le monde est devenu après digital, enfin, les fameux digital natifs sont arrivés. Mais souvenez-vous, en 2006, on avait un BlackBerry, Bérénice, ça vous rappelle quoi, quelque chose ?
BBM, ouais. Je me rappelle de ça, ouais. Le chat entre les BlackBerry.
Et ouais, c'est vrai, c'était l'outil préféré. Bon, allez, on a suffisamment parlé du rétroviseur. Gilles Artaud, PLP Soft. Qu'est-ce que ça fait ? Quel est l'objet de la société ?
Alors, on est spécialisé en fait sur des outils d'aide à la vente et au conseil patrimonial. Donc, on a deux piliers essentiels dans l'offre. Des outils de calcul et de simulation, ça peut être dans le domaine fiscal, dans le domaine financier, dans le domaine d'aide à la décision patrimoniale. Et puis un deuxième pilier qui sont des outils de bilan et de recommandation patrimoniale. Et on a une grosse originalité sur le marché, c'est d'avoir automatisé dès 2012 le diagnostic et la recommandation patrimoniale. Donc on a modélisé d'une certaine façon la manière dont les conseillers peuvent délivrer leurs prestations et on les accompagne de façon assez automatisée dans cette démarche.
Extrêmement important, puisqu'on le sait, hein, le temps est compté pour les conseillers en gestion de patrimoine qui ont souvent beaucoup d'allocations à faire. C'est pas évident, il faut leur simplifier la tâche. C'est ce que font les logiciels, justement, pour...
Tout à fait, on est vraiment dans la logique de simplifier le quotidien, de permettre des gains de productivité et de permettre aux conseillers de se focaliser vraiment sur ce qui fait sa valeur ajoutée. Donc toutes les tâches qui sont... on va dire relativement chronophage et qu'on peut automatiser, on les automatise.
PLP Soft, ça a été créé en 2005.
Fin 2005, exactement, mais on a vraiment, on va dire, franchi un cap en 2012 quand on a mis un pied sur le marché des professionnels, puisqu'avant, en fait, on était plutôt sur des outils de simulation pour le grand public.
D'accord. On parle justement de cette fusion. Vous avez décidé de mettre en commun vos compétences. Un mot de cette fusion. Pourquoi ça prenait sens, Pierre-Laurent Fleury ?
Ça prenait sens parce que nos logiciels, d'abord, sont très complémentaires. puisque nous, il nous manquait cette brique-là pour être capable d'offrir quelque chose en mode 360 degrés sans couture. Et à l'inverse, pour PLP Soft, il manquait notre brique pour le même objectif. Donc nos deux objectifs étaient communs. Ça, c'est une chose. Et puis, en plus, en ayant un peu travaillé ensemble au moment où on a commencé notre partenariat, on a vu qu'on avait plaisir à travailler ensemble. Et on est aussi dans la vie pour se faire plaisir.
Ouais. Gilles, c'est vrai, ça se voit sur le rire. Il y a un bon fit, comme on dit, entre deux personnes aussi, parce que c'est une aventure avant tout humaine, hein, cette fusion.
Je pense qu'on ne serait pas allé vers une fusion si on n'avait pas eu ce fit. Je pense qu'on a un fit personnel, on a aussi un fit métier, c'est-à-dire qu'on est tous les deux issus de la gestion de patrimoine. On connaît très bien le métier et on partage aussi un certain nombre de valeurs, je pense, dans le travail, qui sont importantes. Voilà, donc pour toutes ces raisons, on s'est senti très à l'aise pour franchir l'étape de la fusion.
Oui, les valeurs, c'est important, justement, dans le cadre d'un partenariat. Vous faisiez quoi avant ça, justement ?
Alors, juste avant ça, moi, j'étais cadre dirigeant dans l'assurance, dans une grande compagnie qui s'appelle CNP.
D'accord.
CNP Assurance, effectivement, directeur des partenariats individuels, grand public.
Et vous, Pierre-Laurent ?
J'étais conseiller en gestion de patrimoine.
D'accord, oui.
Donc, il est modeste, il était quand même président de la CNCGP, Pierre-Laurent,
oui, oui. Enfin,
accessoirement.
Puis j'avais fait aussi un petit détour par l'Internet, ouais. Via Courtage et Système, qui maintenant s'appelle Intentiale.
Ah oui.
C'était les premiers.
Les premiers, c'est ça. Ouais.
Voilà, à proposer un parcours digital pour des conseillers en gestion de patrimoine. Et là, c'était un peu comme la pub d'une voiture. Tout le monde disait, ça marchera pas.
Et puis finalement.
Et puis on avait collecté rien que 800 millions en 4 ans, quoi.
Ouais. Et après, tout le monde a fait comme eux.
Voilà, mais et ça reste une très bonne entreprise.
Tout à fait.
Tout seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Voilà ce qu'on dit souvent. Gilles Artaud, justement, on parlait d'une vision aussi commune, une vision métier. Pour vous, quels sont les grands défis qui attendent la gestion de patrimoine ? On sait que c'est une profession atomisée, mais qui est en train quand même de se structurer, de se regrouper. On voit des grands mouvements, avec des fonds d'investissement même qui arrivent sur le marché. Qu'est-ce que ça va bouleverser, là ? Quelle est votre vision et quels sont les défis de cette profession ?
Alors, un premier défi, quand on consolide tout un ensemble d'acteurs assez atomisés, c'est d'arriver à l'efficacité opérationnelle. Ça passe bien sûr par du process, mais ça passe aussi par des outils qui sont assez intégrés. Et on voit aujourd'hui dans ces acteurs qui se consolident un patrimoine applicatif très très dispersé, très variable.
Oula, patrimoine applicatif, c'est quoi ?
C'est-à-dire
tous les logiciels qu'ils ont déjà
qui concourent en fait.
Il y a plusieurs briques, c'est ça qu'il faut.
C'est ça. Il y a plein de briques différentes, il y a plein d'éditeurs différents. Parfois c'est du maison, parfois c'est de l'édition. Il faut arriver à se faire parler tout ça de façon efficace. Donc ça, c'est un premier enjeu, on va dire, de productivité.
Faudrait unifier en fait, selon vous, plus.
Il y a un vrai enjeu, d'unification dans ces groupes qui se constituent. Et on est là pour les aider dans cette unification. Il y a probablement un deuxième enjeu qui est de se préparer à des évolutions réglementaires futures. On a déjà eu beaucoup d'évolutions qui ont compliqué le métier. On n'a pas eu le grand soir sur les modes de rémunération. Mais voilà, c'est une thématique qui revient quand même assez souvent.
Oui. Honoraire versus effectivement rétrocession.
Exactement.
Ou modèle hybride.
Et du coup, pour ces grands acteurs, il y a un vrai enjeu de maîtriser en fait la chaîne de valeur. Donc d'avoir une forme d'intégration verticale, hein, c'est ce qu'on voit dans un certain nombre de grands cabinets qui maintenant ont des sociétés de gestion d'actifs en filiale. C'est une façon de maîtriser la marge tout le long de la chaîne de valeur.
Pierre-Laurent, même question. Je pense que vous êtes d'accord, puisque vous avez dit les visions sont alignées, vous ne pouvez pas nous dire dans le contrat. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui risquent de structurer la profession ?
Alors, en fait, j'ai regroupé ensemble des gens qui avaient des fortes personnalités, puisque souvent les cabinets quand même qui ont réussi. Là, c'est plutôt les gros cabinets qui se font manger les uns les autres.
Oui, tout à fait.
Donc, qui ont à leur tête des gens avec des vraies personnalités.
Oui.
Donc, je pense qu'il y a un sujet ensuite d'arriver à en faire une entreprise. Et non pas une somme d'individualité.
On a vu qu'en foot, ça marche pas trop, les sommes d'individualité, si prestigieuses soient-elles.
C'est pour ça qu'il faut
danser. On va pas raviver de mauvais souvenirs.
Faut un bon coach, comme ils disent.
Non, ça fait pas tout le coach.
Non, pas obligatoirement. Mais donc là, il y a un enjeu, mais qui est vrai dans tous les métiers, toutes les fusions, voilà. Et par contre, il ne faut pas avoir une vue déformée des choses. Mmh. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a des gros acteurs qui sont en train d'émerger et d'exister qu'il n'y a pas autant de petits qui s'installent. Donc en fait, ça ne fait pas disparaître. Je pense que le nombre de CGP ne va pas baisser malgré toutes ces fusions.
Mais ces petits, justement, est-ce que ça va s'inscrire sur la durée ?
Bah, il y a toujours eu de la mortalité infantile. Hein.
Ouais.
Quand on essaie...
Dites pas ça à une jeune maman. Ah.
Je parlais des entreprises. Hein. Pardon.
Et donc, les entreprises, oui, le cap des 5 ans, on sait... Ouais.
Voilà, donc ça, il y a toujours eu un taux de déchet. Parce que c'est pas parce qu'on est très fort en gestion de patrimoine qu'on va savoir se créer un réseau de clients.
Ouais. Mais du coup, ma question était la place pour les petits. Est-ce que c'est une place qui s'inscrit dans la durée ou justement un renouvellement des petits cabinets
Non, je pense que c'est vraiment, ils commencent petits, et ensuite ils sont moyens, et oui, bien
c'est
sûr.
C'est une question pertinente parce qu'on voit quand même que le seuil d'accès, comme on le disait, avec des modes de rémunération, une réglementation qui s'est durcie hein, en hausse, a fait qu'aujourd'hui, il faut quand même être, on peut plus tout faire tout seul, même si on a beaucoup d'outils, même si la numérisation, la digitalisation est arrivée par là, il faut assez rapidement atteindre une taille critique.
Oui, mais c'était déjà vrai avant.
D'accord. Ça s'est pas renforcé, non. On
peut même avec l'arrivée des fonds, justement, ça prend pas plus.
Les fonds, eux, ils veulent les gros.
Mmh.
Ils vont pas s'amuser à prendre tous les petits.
Ouais. Mais du coup, les gros grossissent encore plus.
Oui.
Et les petits se retrouvent un peu.
Non, c'est plutôt je pense que ce qui est en train de disparaître, c'est les moyens.
D'accord.
Les moyens gros, qui eux sont tous effectivement s'agglomèrent tous.
D'accord.
Mais les petits vont rester. Les moyens gros, il va falloir que les petits se reconstituent en moyens gros. Donc, il va y avoir une étape de création de moyens.
Il y a un vrai roulement, en fait, sur le marché.
Exactement. Je pense que ça sera un vrai roulement. Et puis, ensuite, on sait, personne ne sait de quoi l'avenir est fait. Et notamment, est-ce que les fonds continueront éternellement à avoir des fonds à placer ? Peut-être qu'il y aura une raréfication de l'argent et qui fait que ce mouvement qui en ce moment effectivement est en plein boom pourrait se retrouver plus modéré.
D'accord.
Ça comme ça.
Gilles Arthaud.
Plus les moyens deviennent gros et plus ils se rapprochent aussi de ce qu'on peut voir dans des grands réseaux bancaires ou d'assurance. Et vu du client qui est venu chercher chez un petit indépendant une certaine qualité de relation, un certain niveau de conseil, ça peut dans des grandes structures avoir tendance à se distendre un peu. Et du coup, je pense qu'il y aura toujours la place pour des petits acteurs qui ont cette relation assez qualitative avec le client, qui ont un niveau d'expertise élevé. Donc en fonction de la typologie de client, en fonction de ce que recherche le client, il ira plutôt chez peut-être un gros avec des gros moyens, une enseigne qui le rassure, ou plutôt vers un artisan.
Oui. Mais qui lui est conseillé, on sait que le bouche à oreille marche à plein régime, hein, notamment dans le cabinet en gestion de patrimoine.
Et justement, là, vous parlez du client, est-ce qu'il y a une cible vraiment définie pour les gros cabinets ? Est-ce que ce sont par exemple des clients plus jeunes, ou est-ce qu'à l'inverse, les plus jeunes vont plutôt être attirés par des plus petits cabinets, plus proches d'eux ? Est-ce que vous avez une idée, ou pas du tout, il n'y a pas de règle en fait ?
À mon sens, aujourd'hui, je pense qu'il n'y a pas de règles. Hein. Si on regarde la clientèle patrimoniale, elle est plutôt d'un certain âge, en moyenne.
Et c'est en train de se... Avec les confinements, je trouve que ça se rajeunit un petit peu. Enfin, les Français ont pris conscience qu'il fallait faire attention à leur patrimoine, à leur épargne. Et puis, on a eu plus le temps, avec les différents confinements, de s'y intéresser. Non, c'est...
Alors, oui, il y a sans doute un mouvement d'épargne lié à la crise qu'on a traversée. Mais c'est quand même plutôt les ménages déjà assez aisés qui ont épargné, oui, quand on regarde la structure. Donc je ne sais pas si ça a vraiment changé, en fait, la structure de clientèle pour les CGP. Donc il y a, je pense, un enjeu d'une façon générale dans la profession qui est de rajeunir leur portefeuille client, puisqu'ils ont en moyenne des clients assez âgés. Donc ils ont besoin d'aller chercher des clients peut-être plus jeunes. Ça se fait parfois... au sein d'une famille, c'est-à-dire on va chercher les enfants, les petits-enfants, et on essaye de s'assurer que le patrimoine va rester dans l'établissement au fil des générations. Mais on peut aussi aller chercher en fait des gens qui ont des revenus d'un certain niveau, même s'ils n'ont pas encore un patrimoine très constitué, Il a travaillé en fait à partir de cette capacité d'épargne, des investissements qui peuvent être immobiliers, par exemple, en faisant jouer l'effet de levier du crédit. Donc, il y a globalement, je pense, dans la profession, un enjeu de rajeunissement de la clientèle.
Alors, on a parlé, bien évidemment, des conseillers en gestion de patrimoine. On va s'intéresser également au fintech. Bon, vous êtes, bien sûr, au courant de tout ce qui se fait dans ce microcosme. On était en compagnie cette semaine de Philippe de Gouville. C'est le patron de Dismo. C'est une nouvelle application, vous allez le découvrir, qui se propose de capter les centimes sur les arrondis quand on fait des paiements et de les investir. On écoute le patron d'Ismo.
Oui, alors Ismo, c'est une application qui permet de démocratiser l'accès à l'investissement sur les marchés financiers. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord que tout le monde peut aller investir avec Ismo puisque ça commence dès 5 euros. Donc pas besoin d'avoir des sommes importantes pour investir. Dès que vous avez un peu d'argent, vous pouvez commencer à utiliser notre service. Alors, ça c'est la première chose qui fait que c'est la première caractéristique qui fait que les primo-épargnants peuvent être intéressés par notre service.
D'accord, c'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de néo-investisseurs, de la nouvelle génération qui s'intéresse. La particularité de votre application, parce qu'il y a beaucoup de fintech qui s'occupent justement de nous faire investir, c'est que vous proposez d'investir justement sur des très petits montants.
Alors, des petits montants, des gros montants, c'est-à-dire que c'est l'utilisateur qui définit son rythme d'épargne. Alors, comment on a fait aussi pour attirer et pour rendre le service d'investissement plus régulier, plus constant dans le temps? On propose aux gens de relier leur consommation avec leurs actes d'investissement. Alors, comment ça se passe? À chaque fois que vous faites une dépense, par exemple, vous achetez un café, 1,80€, eh bien, on va calculer un arrondi, donc 20 centimes si vous avez choisi d'arrondir à l'euro supérieur. Et ces 20 centimes, tous les lundis, on va vous les investir dans un fonds d'investissement. Voilà. Donc, du coup, à chaque fois que vous dépensez, donc si vous faites 10 cartes, 20 cartes ou 30 cartes par semaine, eh bien, on va aller utiliser ce prétexte d'investissement qu'on peut combiner avec d'autres sources d'investissement comme des virements périodiques, quotidiens ou hebdomadaires. Mais en fait, l'idée, c'est ça, c'est d'amener les gens à épargner de façon régulière. Quand on n'est pas spécialiste, la meilleure solution pour se constituer un patrimoine, c'est de le faire régulièrement et de façon indolore.
Et voilà, du coup, alors, avec ces arrondis, on va pouvoir comme ça commencer son investissement sur quel support on va pouvoir investir?
Alors voilà, là on y vient. Une autre particularité de Ismo, c'est que c'est une société de gestion derrière, qui s'appelle Wide Asset Management, qui gère tous les investissements. Donc on a créé cette société de gestion en même temps que l'application, hein, et on a créé trois fonds d'investissement, un fonds prudent, un fonds équilibre, donc avec moitié-moitié, grosso modo, des actions et des obligations, et un fonds dynamique. Et comme toute société de gestion, on fait un questionnaire avec le client pour déterminer son appétence au risque et pour définir un petit peu son projet d'investissement à long terme, hein, je le répète. Et à ce moment-là, on va l'orienter vers tel ou tel profil, hein, les gens qui sont plus prudents et dans la période actuelle, c'est quand même plus rassurant d'aller sur un fonds prudent, mais on peut aussi aller sur les fonds dynamiques. Et ça se fait pas au détriment de la performance. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que les petits montants, le fait de que ça soit une société de gestion qui le fasse, tout ça, on pourrait penser que ça se fait au détriment de la performance. Pas du tout, nos fonds ont été très bons l'année dernière, ils sont parmi les meilleurs. Et donc, on prouve comme ça, finalement, qu'on peut allier à la fois de la performance, des petits montants, et donc donner finalement aux gens qui ont moins d'argent pour commencer à investir la même qualité de service que pour les patrimoines les plus importants.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Voilà, donc Philippe de Gouville qui nous présentait sa société Ismo, hein, alors avec une société de gestion derrière, bien évidemment. Idée intéressante, qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes spécialiste de ces... Alors, peut-être pas de ces taux, mais en tout cas des fintechs, oui, c'est un monde que vous connaissez.
Oui, j'avais entendu déjà parler d'une société qui était canadienne, qui faisait la même chose et qui s'implantait en France, je croyais. Mm-hmm. Je connais plus son nom, je l'ai oublié. Mais effectivement, ça fait partie des idées un peu originales et qui peuvent fonctionner. Simplement, il faut derrière avoir un gros fonds pour être capable de tenir le temps de l'acquisition de la clientèle, qui est quelque chose à la fois long et coûteux, quoi.
Oui, parce que là, quelques centimes, ça va être plutôt une longue durée pour
pour ouais, arriver à faire des montants.
Oui.
Faire
c'est des surtout bons pénétrer ce marché, effectivement, avoir le, comme le disait Pierre Laurent, hein, la base client. On sait que c'est le particulier, c'est difficile. Hein, on n'est pas sur un produit de grande consommation. Les gens sont toujours un petit peu méfiants. Ils font confiance à leur banque. Voilà, c'est vrai que on a tous ces paramètres, mais on voit quand même que bah, ce monde est assez foisonnant. Alors vous êtes décidé PLP Soft et on le rappelle et Ménimore de s'allier, de mettre vos forces ensemble. Tiens, une petite question. PLP Soft, Ménimore, quand on parle du naming, le nom, qu'est-ce que on va faire un PLP Ménimore, comment ça va s'appeler? Alors, Gilles Artaud.
On n'a pas encore tranché ce point-là, c'est un des rares points qui reste encore.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non, c'est pas qu'on n'est pas d'accord, c'est qu'en fait on fait tous les deux la même analyse. L'un, c'est qu'effectivement, Ménimore est le nom le plus connu des deux noms. Mm-hmm. Donc il a un asset, une valeur, entre guillemets, par le fait qu'il soit connu de la profession et que tout le monde l'identifie mm-hmm. très bien. Mais à l'inverse, c'est une nouvelle aventure qu'on veut monter. Et donc, l'idée de partir ensemble sur un nouveau nom est aussi quelque chose d'appréciable.
Bien sûr.
Donc entre les deux raisonnements qui tous les deux sont logiques, notre cœur balance.
Vous n'avez pas encore tranché.
Voilà.
Gilles Artaud, sur cet écosystème justement des fintechs, on voit qu'il y a eu ce balancier, hein, ces fintechs qui devaient tout révolutionner à l'instar de ce qui se fait aux États-Unis. C'est vrai qu'il y a des gros succès. Là, c'est un petit peu plus compliqué en France. Souvent, ça a pivoté vers du modèle B2B. Comment vous voyez ce phénomène? Ce bouillonnement justement des fintechs là, depuis quelques années, la French Tech et la fintech Plus en particulier.
Je pense qu'il y a une constante en fait, c'est que quand on va sur du B2C, il y a besoin de moyens financiers extrêmement conséquents. En marketing, c'est pas que de l'investissement IT, donc probablement beaucoup de ces fintechs ont investi sur la partie IT et avaient peut-être pas les moyens suffisants pour faire le marketing qui permet d'atteindre le volume de clients critiques. Donc c'est ce qui a expliqué le pivotement sur le professionnel. Je pense que ça a porté beaucoup d'innovation en fait au marché et au marché des professionnels. Donc c'est loin d'avoir été perdu. Mais mm-hmm. si ça a mieux marché aux États-Unis qu'en France, c'est probablement qu'il y avait une capacité des fonds d'investissement à supporter plus longtemps des modèles déficitaires dans lesquels il y avait des gros investissements marketing.
Mais oui. C'est vrai qu'on n'a peut-être pas cette puissance et ces investisseurs aussi derrière l'écosystème, bien qu'il y ait quand même pas mal d'argent qui arrive en ce moment. Pierre Laurent.
Et puis il y a aussi, le pays ne fait pas exactement la même taille.
Ouais. C'est vrai.
Ce qui change quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup la face des choses. Hein. Quand on regardait Wealthfront au début.
Wealthfront, tout à coup.
Voilà. Je l'avais comparé à je ne sais plus quelle fintech française. Et en fait, les deux étaient quasiment en parallèle, en tenant compte de leur marché.
Mmh. D'accord.
Mais en tenant compte de leur marché, c'est juste le truc qui est mortel, quoi.
Ouais, ça comptait en milliards d'un côté et peut-être en centaines de milliers d'euros de l'autre, bien évidemment. Il faudrait créer des applis européennes.
C'est
d'ailleurs,
ça,
les grands succès.
Viser l'Europe, du coup.
Sont maintenant de ce côté. On voit Conto, on voit d'autres fintechs qui s'étendent. Et il faut essayer d'aller très vite sur beaucoup de pays pour avoir la taille critique.
Oui.
Sans quoi c'est plus compliqué.
C'est plus coûteux en Europe, en fait, d'aller sur le marché européen qu'aux États-Unis, qui est à peu près la même taille, en fait.
Oui, parce qu'il y a des langues différentes.
Ouais, même langue, même réglementation.
Réglementation.
Même culture, ça change tout.
Oui, c'est vrai. Il faudrait viser les pays francophones, au moins. Du coup, Canada, Belgique, Suisse.
Voilà. On est en compagnie de Pierre Laurent Fleury, président de Ménimore, Gilles Artaud, président de PLP Soft, qui ont uni donc leurs forces pour une nouvelle entité dont le nom est à créer, peut-être. On fait une pause musicale, chers amis. On se retrouve juste après et on va parler un petit peu du marché également. On sera en compagnie de Marc Toiti. À tout de suite.
Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this. Do 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 do. Oh, I want something just like this. Do do do.
legends and the myths, the testaments they told, the moon and its eclipse, and Superman unrolls the suit before he lived. But I'm not the kind of person that it fits. She said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can miss. I want something just like this. Where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. I want something just like this.
C'était Chainsmokers et Coldplay, Something Just Like This.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
La fusion des éditeurs logiciels dédiés au CGP, Manymore et PLP Soft sont avec nous. PLP More, Manysoft, on ne sait pas trop. En tout cas, Pierre-Laurent Flory et Gilles Artaud, les présidents des deux entités, ont discuté, c'est vrai, pendant la pause de ces conseillers en gestion de patrimoine. Donc, on a compris, l'écosystème est là. Il y a des nouveaux qui arrivent parce qu'il y a des nouveaux clients. On parlait justement de ces jeunes investisseurs, Bérénice.
Oui, tout à fait. Et je disais que quand on est jeune, on travaille, on n'a parfois pas le temps justement de faire des recherches parce qu'il faut le dire, pour investir, pour faire grossir son patrimoine, il faut quand même se documenter, il faut s'intéresser, ça prend du temps, c'est chronophage. Et c'est là où les CGP peuvent peut-être viser des cibles du coup plus jeunes. Et pas des personnes qui ont déjà qui approchent de la retraite, qui ont déjà mis pas mal d'argent de côté, qui ont déjà un beau patrimoine. Voilà, c'est pour ça que je disais que ça pouvait être intéressant de viser aussi les jeunes.
Et plus jeunes mais aisés.
Alors, c'est aisé plutôt deux cadres, deux cadres sup, voilà, c'est ça. Qui ont une belle carrière à venir, on va dire.
C'est ça.
Il y a une opportunité pour les CGP qui peut. Alors, on peut pas adresser évidemment tout le monde sur tous les patrimoines, on va dire pas petits, mais en constitution. Mais en revanche, à travers cette numérisation, digitalisation, à travers tous ces outils, on peut de plus en plus justement les adresser de manière pas automatisée, mais du moins assez standardisée.
C'est bien l'enjeu, hein, au travers des outils qu'on leur apporte, en leur faisant gagner du temps. On doit permettre au CGP d'élargir la cible de clientèle possible et de démocratiser davantage le conseil. Donc c'est vrai avec les outils qui accompagnent sur la partie réglementaire, mais c'est vrai aussi avec les outils qui automatisent davantage effectivement le conseil. Et notre ambition, c'est de permettre de démocratiser le conseil au travers de nos clients.
C'est un conseil du coup, ce qui va être, comme je disais, standardisé. Ces outils, il y a des outils d'allocation. On va proposer des portefeuilles, par exemple, standard. Comment ça se passe?
Alors, il y a le volet financier avec l'allocation d'actifs et il y a tout le volet, en fait, de stratégie patrimoniale avec du juridique, du fiscal. Quand on parle de protéger la famille, ça peut être des outils de prévoyance, mais ça peut être aussi simplement modifier un régime matrimonial, prendre des dispositions testamentaires. Donc, le CGP, lui, il accompagne assez globalement son client sur toutes ces dimensions-là. Il y a une partie qui peut être standardisée, c'est-à-dire qu'il y a des solutions, finalement, qu'on retrouve de façon assez, assez régulière face à des besoins qui sont typés. Mais le CGP a toujours besoin de, d'adapter en fait le standard pour faire du sur-mesure. Donc on ne prétend pas accompagner le CGP de façon totalement automatisée jusqu'au bout de la prestation. L'idée, c'est de l'accompagner sur 80% de la prestation et qu'il se concentre vraiment sur les 20% qui restent de sur-mesure qui font sa valeur
sur
ajoutée.
Sur l'humain, en fait.
L'humain, la bonne appréhension des besoins du client, de ses attentes, ça, le système aura toujours du mal à bien l'apprécier. Et puis, en aval, le fait de customiser en fait, les solutions par rapport à ses attentes.
Et oui, on dit souvent que le CGP est le généraliste un peu du patrimoine. et c'est vrai qu'en ce moment, il y a fort à faire, hein, puisque les marchés sont en plein trouble, évidemment, avec ce déclenchement du conflit entre la Russie et l'Ukraine, cette agression, on peut dire. Les bourses tremblent. On a vu un décrochage assez violent. Alors, peut-être qu'on était un petit peu haut sur la bourse. On a demandé son avis à Marc Toiti, économiste d'ACDFI. On écoute ce qu'il nous dit et comment peut-être vont réagir les banques centrales.
Bonjour Fabrice, bonjour à toutes et à tous. Ravi également d'être avec vous.
Le président d'ACDFI est auteur d'un nouveau livre, Reset, quel nouveau monde pour demain. Je crois que vous l'avez écrit après la crise Covid, mais voilà, là on a une nouvelle crise, Marc.
Il y aura une suite, je lance le scoop, il y aura bientôt une suite, effectivement, mais il faut d'abord lire le premier, bien entendu, pour avoir la suite.
Ah, d'accord, comme toutes les bonnes séries, il y aura un, deux, on n'espère pas trois. En tout cas, on était déjà sur une tendance qui n'était pas terrible au niveau des marchés financiers. On digérait cette crise Covid, on avait des tensions, on avait de l'inflation, et voilà que dès mi-février, on a cette nouvelle menace au-dessus de nous qui a fait plonger les marchés. Est-ce qu'on peut parler, première question Marc, d'un signe noir ?
Complètement, on a malheureusement aujourd'hui, bon, on peut le dire, un krach boursier. Alors le problème c'est que ça tombe mal, pourquoi ? C'est-à-dire que on avait déjà eu effectivement une crise historique, hein, celle du coronavirus, je rappelle quand même 2 ans de blocage du monde finalement, première année avec une récession historique, hein, si on prend le cas de la France, -8% pour le PIB français, en 2020. En 2021, ça a redémarré, mais on sait pourquoi. C'est parce qu'effectivement, on a mis toutes les cartouches dans la machine. Hein. La dette publique française a augmenté de 500 milliards d'euros. La dette publique de la zone euro, 2000 milliards d'euros de hausse en 2 ans. Enfin, c'est des sommes complètement folles. Alors, ça ne s'est pas vu parce que c'était la Banque Centrale Européenne qui finançait tout ça. Sauf que malheureusement, c'est la loi de base de l'économie. On a fait trop de demandes, entre guillemets, alors que l'offre n'était pas là. C'est la règle de base de l'économie. Demande supérieure à l'offre, l'inflation augmente. Ça, c'était avant la guerre en Ukraine, qui évidemment est arrivée. Alors, bien sûr, le drame, c'est avant tout un drame humain, un drame humanitaire, hein, la guerre. Mais le problème, c'est que comme la Russie est le premier exportateur mondial de blé, par exemple, également de gaz, le deuxième de pétrole, donc évidemment, ça a généré une flambée des cours des matières premières, et donc ça venait, c'est dû mettre de l'huile sur le feu de l'inflation. C'est ça. Le vrai drame aujourd'hui, c'est qu'effectivement, l'inflation augmente, et donc les politiques monétaires, budgétaires, sont prises à leur propre piège. Parce que comment voulez-vous relancer la machine aujourd'hui? On n'a plus de cartouches, on a déjà tout utilisé. Et donc arrive cette crise, et malheureusement, on est un petit peu bloqué, un petit peu coincé.
Pour reprendre une émission, pour reprendre une expression chère à une certaine candidate, est-ce qu'on a déjà cramé la caisse?
Ah bah oui, ça fait déjà un bout de temps qu'on l'a cramé, effectivement, mais là, ça se voyait pas pendant la pandémie, parce que, encore une fois, c'est la Banque Centrale Européenne qui a acheté, mais là, elle doit arrêter ça, parce que, clairement, si elle continue, eh bien, ça va encore faire baisser l'euro. Et si l'euro baisse, ça augmente l'inflation importée. Comme vous savez, les matières premières sont libellées en dollars, donc si l'euro baisse, ça va nous coûter encore plus cher. C'est la grande différence avec les autres crises, pétrolières ou des matières premières. Prenons 2008, par exemple. À l'époque aussi, le baril est monté à 150 dollars, sauf que l'euro était très cher. On était monté à 60 dollars pour un euro. Donc l'euro était fort. Donc ça compensait en partie la hausse des cours des matières premières. Là, la différence, c'est qu'on a la double peine. On a à la fois les matières premières qui flambent et parallèlement l'euro qui baisse. Donc on paye deux fois, entre guillemets. Donc c'est ce qui attise l'inflation. Et donc si la BCE, elle est, encore une fois, elle est coincée, parce que si elle ne fait rien, ça va alimenter encore une fois cette baisse de l'euro. Donc ça va alimenter l'inflation. Et si elle remonte les taux, eh bien à ce moment-là, ça va casser complètement l'activité qui est déjà en berne. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux. Mais tout ça, c'est lié à l'erreur qu'a fait la Banque Centrale Européenne ou également la Réserve Fédérale Américaine l'année dernière, lorsqu'ils ont voulu ils nous ont menti tout simplement, ils ont dit qu'il n'allait pas avoir d'inflation. Moi-même il y a un an, je disais que l'inflation allait augmenter, je ne suis pas devin, c'est simplement on a des indicateurs avancés, on voyait que l'inflation allait augmenter et eux ils disent non, tout va bien dans le meilleur des mondes, ça sera transitoire, etc. Ça évidemment ça ne l'a pas été, donc la Réserve Fédérale Américaine a fait son mea culpa avec Jerome Powell en fin d'année dernière en disant bon, on s'est trompé, désolé, l'inflation est là, bon, et là la BCE l'a toujours pas faite, mais c'était l'année dernière qu'il fallait réagir. réagir. Une politique monétaire, elle doit anticiper, pas réagir sur le passé. Si on avait fait ça, on aurait eu un peu moins d'inflation, et surtout aujourd'hui, on aurait eu une marge de manœuvre pour relancer la machine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Voilà Marc Toiti, le président d'ACDFI, hein, toujours avec sa verve habituelle. 50 000 mots à la minute, qui nous racontait effectivement, qu'il n'y avait pas la boule de cristal, mais c'est vrai que sur cette inflation, ça va peser. Une question, messieurs, sur l'impact. Est-ce qu'on le mesure? Est-ce que, alors, vous n'êtes pas directement en contact des CGP, néanmoins, est-ce que les systèmes à ce moment-là sont plus sollicités? Est-ce qu'on voit est-ce que ça change quelque chose pour vous, votre business?
Alors, le Covid, a énormément changé les choses. Mais là, une crise comme ça, pour l'instant par rapport à l'utilisation de nos outils, bien évidemment, je restreins mon propos à cela. On ne peut pas dire que ça change.
Alors, on revient à la précédente crise. Qu'est-ce que ça a changé? Il y a eu une accélération?
Le digital a été inventé.
Ouais.
C'est aussi bête que ça.
C'est vrai que certains cabinets ont découvert le digital lors du Covid.
Voilà. Donc, parce que pour passer un arbitrage pour un client, s'il n'y avait pas de digital, c'était pas terrible. Donc, tout s'est fait de façon digitale. Donc là, on a vu effectivement l'utilisation de nos outils exploser. Les formations où on en faisait de façon régulière, je sais pas, on a dû multiplier par 3 ou par 4 le nombre de formations pendant la période Covid, surtout au début, parce que les gens ont voulu absolument prendre en main l'intégralité des fonctionnalités de l'outil pour pouvoir servir leurs clients à distance.
Peut-être qu'ils se sont dit, on a le temps, on est chez nous, on ne peut pas aller voir les clients, du coup on va peut-être essayer d'exploiter à fond les possibilités du tel et tel logiciel.
Oui, je pense que ça en a fait partie, effectivement.
Et du coup, le rythme est resté le même, là, depuis, ou ça a un petit peu diminué, les gens sont revenus? Non, c'est resté pareil.
Non, les gens ayant appris à s'en servir, continuent à s'en servir.
Et proposent systématiquement à leurs clients, en premier, le digital, du coup.
Maintenant, c'est devenu la norme, d'autant plus que quand même la grosse partie d'activité d'un conseiller en gestion de patrimoine, ça reste l'assurance vie, et que les compagnies d'assurance elles-mêmes ont poussé pour passer au digital, d'abord pour que les opérations puissent continuer à se faire pendant la période de Covid, et puis ensuite, c'était aussi un intérêt bien compris d'une chaîne de valeur, de dire, demander à des assureurs de ressaisir des papiers scannés. C'est dans une chaîne de valeur perte de l'efficacité. Donc tout le monde, tous les agents économiques, on va dire, avaient intérêt à ce qu'il y ait une fluidité de la chaîne de transmission des informations via le digital.
Même constat chez PLP Soft, accélération forte durant ce confinement.
Oui, tout à fait. Alors nous, on n'était pas sur la digitalisation des actes, contrairement à Ménimore. Donc nous, c'est plutôt effectivement le temps dont disposaient les CGP chez eux qui a fait que ils sont rentrés davantage dans les outils d'aide au conseil et qu'ils les ont utilisés beaucoup plus. On a eu aussi un vrai soutien à l'activité commerciale. On a rentré beaucoup plus de nouveaux CGP dans cette période-là qui avaient peut-être plus le temps de faire leur marché pour s'équiper. Juste pour revenir sur en fait ce qu'on peut attendre de la digitalisation des actes, c'est aussi côté CGP un intérêt de fiabilisation en fait des opérations qu'il traite avec la compagnie. Il est sûr de pas avoir de problème de documents qu'il utilise. Il est sûr que le dossier est complet, donc il y aura pas d'aller-retour incessant avec la compagnie. Donc c'est derrière du temps gagné et une qualité de service au client final qui est beaucoup plus importante. Donc je pense que dans le Covid, en utilisant la digitalisation des actes, les CGP ont compris qu'ils y gagnaient également beaucoup en efficacité opérationnelle.
Bien sûr, et puis oui.
Non, j'allais dire, et donc ça veut dire aussi plus de clients.
Tout à fait.
Oui. Et nous on a mis en place un élément d'appréciation en fait des CGP sur les actes digitaux. On l'a fait pour Cardiff, et donc après chaque acte, le CGP doit donner une note de 1 à 5. D'accord. Sur l'appréciation qu'il a eue de l'outil.
De l'outil, oui.
Et on est à 4,7.
D'accord.
Donc ce sont des outils qui sont appréciés.
Pour après, c'était ça dans quelle optique? Pour réajuster derrière leurs évaluations, c'est ça?
Pour que nous, on sache si ce que l'on fait est apprécié ou pas.
D'accord.
Et comprendre exactement
leurs besoins.
Oui, et puis si on pouvait, on n'arrivera jamais au 5 sur 5. Hein, mais,
peut-être, on vous le souhaite.
Mais voilà, mais les efforts qu'on a fait avec Cardiff et nos équipes pour arriver, et on s'est donné ça comme instrument de dire, au fond, mesurons de façon objective la satisfaction client, donc celle du CGP, sur les outils qu'on fait.
Voilà. Et il y a eu juste une note avec remarque.
Ah non, alors il y a des remarques qui sont faites, mais c'est continu, hein. C'est pas un sondage une fois. C'est-à-dire que on a mis ça en place, c'est un tracker qu'on suit en permanence.
D'accord.
Voilà. Et donc, si à un moment, eh ben, il va y avoir une baisse, c'est bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Et donc, il faut fouiller pour que la note reste au moins à ce niveau-là. Et si possible, continuer à augmenter.
D'accord. Du coup, vous êtes très réactif vis-à-vis de ça.
Oui. Il n'y a qu'une vérité. Hein, c'est la satisfaction client. Tout le reste...
C'est vrai.
Au niveau des outils, tiens, on rentre pas, on soulève le capot là aussi. On est passé sur des modèles, quand on parle de logiciels, c'était auparavant des logiciels installés. Est-ce que c'est toujours le cas ou on est passé complètement sur du SaaS, on est dans le cloud?
Je crois qu'il reste quasiment plus de logiciels installés. Il y en avait un encore très gros qui a décidé de passer en mode SaaS, mais le logiciel installé, pour des tas de raisons, est mort.
Ouais. Et une autre question qui est clé pour le développement de votre société désormais commune, c'est aussi la guerre des talents qui fait rage, notamment sur tous les profils tech. Comment on s'en sort en ce moment? On parlait d'inflation, alors sur l'énergie, sur les matières premières, mais là aussi, il y a une inflation du côté de ces talents et de ces profils très recherchés.
Oui, c'est aussi un des avantages de cette fusion. C'est que PLP Soft avait sur sa couche de direction, ce qui ne vaut aussi sur les autres, mais par rapport à la complémentarité, juste sur, par rapport à Myanmar, des très très gros talents, et Gilles en est un. mais il est pas le seul. Et donc ça nous permet de voir l'avenir et de pouvoir effectivement avoir un levier pour le groupe nous permettant de se projeter sur des ambitions plus fortes qu'on n'aurait pu le faire si nous étions restés seuls. Mmh. Mais effectivement, sur l'IT, faut trouver les talents, c'est compliqué. Les garder, c'est compliqué, parce qu'en fait, les talents veulent, en IT, souvent avoir des expériences différentes. Et donc, ont tendance à, pour leur culture personnelle, en fait, butiner d'une expérience à l'autre. Et donc, c'est assez compliqué de les fidéliser.
Oui, il y a aussi l'enjeu maintenant géographique, puisque c'est aussi une possibilité. Alors, je ne sais pas où sont les sièges différents, Paris, région parisienne.
On était tous les deux en région parisienne et maintenant on est déjà dans les mêmes locaux.
D'accord, vous êtes dans les mêmes locaux. Ça peut être aussi un facteur d'attractivité, soit de proposer effectivement des bureaux ou dans Paris ou ailleurs, ou peut-être la possibilité de travailler aussi à distance. Est-ce que c'est quelque chose qui est fait dans vos sociétés?
Oui.
Oui, tout à fait. On a du télétravail de façon assez importante. Hein. On est aujourd'hui à 3 jours de télétravail. Ce qui permet effectivement d'avoir un curseur entre vie professionnelle et vie privée qui est très favorable pour les collaborateurs. Donc c'est un élément d'attractivité. Mais on travaille aussi sur d'autres éléments d'attractivité. Il faut que les collaborateurs se sentent bien dans l'entreprise. Donc les managers sont là pour ça. Mais il y a tout un tas d'actions qu'on doit mener pour que ils aient envie de venir dans les locaux. C'est pas juste je suis content de travailler de chez moi, c'est aussi je suis content de retrouver mes collègues, de travailler ensemble, d'avoir une émulation. Donc tout ça, on va bien sûr le travailler beaucoup. Et puis on doit aussi, quand on doit attirer des talents, travailler avec des écoles, avec des réseaux, pour savoir attirer ces talents-là et se distinguer dans un monde où il y a beaucoup de fintech, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises traditionnelles qui ont besoin maintenant de profils tech et qui ont des belles marques. Donc on doit être attractif sur tous les éléments qu'un collaborateur peut attendre.
Et donner aussi envie aux talents de rester en France, parce qu'on a ce souci-là aussi en France. Les gens partent à l'étranger parce que les propositions sont meilleures, parce que les salaires sont plus élevés. Est-ce que ça aussi, vous en avez conscience et vous essayez de préserver nos talents français?
On essaye. On essaye, mais oui, évidemment, dans les jeunes, enfin, si j'en juge à mes enfants, l'étranger... à de l'attractivité.
Hein. Ouais, mais s'il y a de l'étranger, avec là aussi de l'expérience, évidemment, des expériences différentes, une façon de travailler. J'ai une dernière question, on digère évidemment cette fusion, hein, c'est jamais évident, mais on a l'impression que ça fit bien effectivement entre vous deux, on verra pour les équipes. Est-ce qu'il y a d'autres cibles, c'est-à-dire est-ce que vous pourriez vous étendre et avoir vous-même maintenant, en tant que nouvel ensemble, des cibles qui pourraient compléter votre offre?
Alors si la question c'est est-ce que vous allez en rester là, la réponse est non.
Très bien.
Donc effectivement, il y a déjà une cible qui avait été sourcée par Gilles, sur laquelle on veut aller plus loin. Et oui, on veut arriver soit par de la croissance interne, en continuant à inventer les choses. Parce que la particularité quand même de nos deux entreprises, c'est que les deux sont deux entreprises qui ont toujours aimé innover. Donc notre croissance, on l'a toujours faite sur l'innovation. Donc quand Gilles parlait de l'organisation du conseil et de l'automatisation du conseil, bah, c'est la seule entreprise aujourd'hui qui fait ça. Quand nous, il y a 4 ans, on a eu l'idée de faire Connective, donc de digitaliser toute la partie des compagnies d'assurance sur la partie front, tout le monde nous a dit « ça marchera jamais ». Bon, bah, ça a marché. Et donc, il faut savoir sortir des sentiers battus et toujours créer.
Et proposer de l'innovation.
Donc voilà, donc on veut continuer à avoir ce moteur d'innovation qui est ce qui nous anime, c'est notre ADN. Maintenant, on ne se refuse pas non plus de faire de la croissance externe, bien sûr.
Merci messieurs, Pierre-Laurent Fleury, donc le président de Benimore Gilarteau, président de PLP Soft. Du coup, vous allez rester co-président tous les deux de la nouvelle entité. Bon.
Alors, on a un système de gouvernance élaboré. donc Pierre-Laurent restera président et je serai le directeur opérationnel, donc le directeur général de la structure. Voilà, mais avec une couche de gouvernance particulière pour garantir qu'on prend les décisions main dans la main. C'était, je pense, un état d'esprit important dans cette fusion.
Très bien, la fusion des éditeurs logiciels donc, qui se poursuit après le monde eh bien, des cabinets, hein, les logiciels aussi, ça avance vite. Et on a l'impression que c'est pas fini. Merci messieurs, merci Bérénice Deville, co-animatrice pour cet hebdo patrimoine, à la réalisation Jason Pignon. Merci à Sophie Bernard qui a préparé et proposé cette émission. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'hebdo patrimoine.
L'hebdo patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.